Est-ce que vous avez, alors on va passer maintenant à un temps de pour vos questions. Voilà. Oui, Joseph.
En fait, mon idée était la suivante, c'est que vous pouvez à toute seconde, que ce soit ici ou à la chasse, dire oui ou non à Dieu. Hein? Et donc, quand vous êtes dans la nature, il n'y a que vous qui savez ce que vous allez faire et votre Créateur. Et c'est simplement ça, vous pouvez l'ignorer complètement, mais décider de par votre propre liberté de commettre un acte normal, correct de chasse ou de braconner, par exemple. Et donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc, s'il y a une responsabilité énorme, c'est que pour ceux qui, peut-être d'entre vous, qui ont joué au golf un jour, quand vous êtes dans un buisson avec votre balle, quand vous avez fait un mauvais drive, hein, eh bien, si vous ratez la balle, vous êtes censé crier à haute voix air short, hein, parce que vous avez un point de pénalité. Hein. Mais il n'y a personne d'autre qui a vu ça. C'est vous qui le savez que vous avez raté la balle, que vous ne l'avez même pas touchée alors que vous aviez l'intention de la tirer. Mais c'est un tout petit peu la même approche. Et dans l'éducation, on doit pouvoir se mettre à soi-même, si vous voulez, ou apprendre à se mettre à soi-même, d'appliquer soi-même sans contrôle une forme d'éthique. Oui?
Quand on parle de passion de chasse, est-ce que c'est une passion éduquée ou est-ce que par la chasse, on apprend à maîtriser ses passions, ou c'est une forme de se lâcher et de justement pouvoir se lâcher.
Oui. Alors, c'est un peu la définition du mot passion qui est compliquée là. Chez moi, depuis que je suis tout petit, avant même qu'on me l'apprenne, j'avais un désir de chasser. Et mon père parlait de l'histoire de chasse, etc. Donc, dans ce sens-là, j'avais une envie énorme de chasser. Et ça continue. Alors, se lâcher, en fait, est faux d'une certaine façon, parce qu'alors on risque de devenir un tireur et pas un vrai chasseur. C'est sûr que c'est un moment de détente extraordinaire, parce qu'on se trouve, alors se relâcher, oui, parce qu'on se retrouve dans cette nature, cette création qui est extraordinaire, et où on peut élever son âme, et en même temps en faisant une activité qui est passionnante. Parce que très difficile et parce que très belle en même temps. Si la chasse, c'est comme pour toutes les passions, si la chasse devient le maître, alors c'est pas juste. Je connais au moins un exemple d'une famille qui a pas bien réussi parce que le père était tellement passionné de la chasse qu'il ne faisait plus que ça, ne parlait plus que de ça, etc. Et donc ça, c'est faux aussi. Il y a un juste milieu à avoir. Mais moi, je pense que dans le cadre d'une famille où déjà il y a la tradition et que ça peut aider l'éducation, c'est une chose extraordinaire. Oui? Quelle est la, pardon? Ah! Alors, déjà dans les temps anciens, vous savez qu'il y avait des déesses de la chasse, comme Diane, par exemple. Donc, je pense que anciennement déjà, les Romains et même déjà les Grecs pensaient que c'était possible. C'est sûr que traditionnellement, les femmes chassaient peu. Moi, j'en ai connu beaucoup. D'ailleurs, mon épouse a passé son permis de chasser, hein, mais elle m'a toujours accompagnée pendant des années. Avant de faire le permis. Et moi, je lui avais dit, ce serait quand même bien qu'on fasse quelque chose ensemble comme ça. Alors, c'est sûr que, naturellement, beaucoup de femmes pensent plutôt à donner la vie plutôt qu'à l'enlever. Hein. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines qui ne veulent pas la chasse, ne veulent pas chasser. Je vous donne un exemple d'une de nos deux filles, qui est maintenant religieuse, s'appelle Marie des Neiges. Et Marie des Neiges un jour, parce que pour moi, elle devait pas, elle n'était pas obligée de chasser, elle était avec moi sur un mirador. Et elle me dit, elle avait 13 ou 14 ans, elle me dit, papa, quand j'aurai 14 ans, est-ce que je pourrais tirer un sanglier comme les garçons? Je me suis dit, flûte alors, qu'est-ce que je vais répondre maintenant? Alors j'ai dit, écoute, si comme les garçons, tu es prêt à ouvrir le sanglier, à mettre tes doigts dans le sang, à toucher les tripes, à retirer enfin les choses, etc., à ramener tout ça à la maison, alors il n'y aura pas de problème. Bon, elle n'a rien dit. Elle n'a pas répondu. Je me suis dit, bon, mais c'est réglé, elle ne va pas chasser. Bon. Un an plus tard, j'avais oublié toute cette histoire, et nous nous trouvions ensemble sur un mirador, en train de prier le chapelet ensemble, et puis arrive un sanglier. Le sanglier était un animal attiré, donc je l'ai tué. Et après le tir, souvent, je dois reprendre mon souffle, parce qu'il y a toujours une émotion hein, dans la chasse. Et je me retourne pour parler à Marie des Neiges. Elle n'était plus là. Je regarde près du sanglier, je la vois avec son tout petit canif suisse en train de découper l'animal. Alors bon, l'année suivante, elle a tué son premier sanglier.
On apprend voilà. Sur Marie des Neiges.
Oui. Alors il faut qu'elles aient envie, hein. Ça doit pas être une ça doit être une liberté d'une certaine façon. Oui.
Est-ce que vous voyez une grande différence entre les chasseurs en Amérique et les chasseurs en Europe?
Oui et non. Oui, parce que les lois sont totalement différentes. En Amérique, vous avez des territoires entiers qui sont ouverts à la chasse, qui sont, par exemple, dans votre pays au Canada, qui sont Crown Territory. Et donc, où tous les chasseurs peuvent aller avec ce qui s'appelle un tag, c'est-à-dire un permis pour tuer un animal, n'est-ce pas? En Europe, et pas en Suisse, mais dans la plupart des pays européens, il y a beaucoup de chasses privées ou des chasses communales. Et alors qu'ils sont organisés à ce niveau-là, et donc il y a ce qui se fait, ce que j'ai signalé tout à l'heure, un plan de chasse, hein, et vous êtes invité à venir. Tandis qu'en Amérique du Nord, en général, vous décidez d'aller quelque part selon ce que la loi permet. Donc c'est ça la différence. Ceci dit, dans la déontologie, le principe de base est le même, hein, donc chasser correctement, respecter la loi, ne pas faire de coups de fusil dangereux, etc. Retrouver le gibier si jamais il était blessé, ramener la viande, etc. Tout ça, c'est la même chose. Par contre, en Europe, il y a des règles encore, puisque le territoire est beaucoup plus restreint, donc il y a des règles de sécurité beaucoup plus strictes. Dans certains endroits en Amérique, vous pouvez mettre une balle à 45 degrés, il n'y a aucun risque de toucher quelqu'un, n'est-ce pas? En Europe, vous risquez gros en faisant une chose pareille. Donc la sécurité et l'autosécurité, celle qu'on s'impose, est beaucoup plus grande à ce moment-là. Oui. Oui.
Je me demande comment est-ce que vous le vivez.
Mais écoutez, moi je pars du principe que d'abord, au départ, les gens ne pouvaient pas vivre sans chasser parce qu'ils devaient se nourrir. Aujourd'hui en Afrique, par exemple, quand j'ai tiré un buffle en Afrique, par exemple, on donne toujours la viande aux Africains. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent de protéines. Qu'ils ne trouvent pas dans les végétaux qu'ils peuvent manger. Et donc, ils ont absolument besoin de la viande pour survivre, être en bonne santé. Alors moi, quand je relis la Genèse, et je sais qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre, mais quand même, c'est un bon guide. Quand on voit, quand le bon Dieu fait la création, il commence par les minéraux, puis les végétaux, qui sont à un niveau supérieur, puis les animaux, et puis il met au-dessus de la création l'homme, en disant que le reste est à sa disposition, mais qu'il doit bien l'employer aussi, évidemment. Donc, moi, je me fais pas vraiment de soucis à ce niveau-là.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'employer, entre guillemets, dans la simple contemplation? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez assisté aux conférences, quand on parle
non.
De Postman. Moi, je ne sais pas, mais je trouve qu'effectivement, il y a une différence entre l'animal extérieurement dans son mouvement, dans ses formes et tout, et l'aspect intérieur qui est quand même choquant, il y a une grande différence. Et
Oui, tout à fait. Je vais juste poser une question. Avez-vous jamais assisté à une chasse?
Bon, mon père pêchait.
Oui, c'est pas... moi aussi. Non. Alors, c'est très difficile à comprendre par une simple conférence si on n'a pas vraiment participé en essayant d'être neutre dans une belle action de chasse, n'est-ce pas? Mais peut-être vous vouliez dire...
Oui, j'ai des choses à dire là-dessus parce que, bon... Oui. J'ai une pente assez naturelle au végétarisme. Donc, je vais vous dire... Si je mange, quand je mange de la viande, je décide d'en manger. Je n'ai pas un appétit spécial pour la viande, etc. Mais malgré tout, ça fait partie de la condition humaine. Je veux dire, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a aussi des hommes qui ont chassé avant nous. C'est aussi, alors on peut dire que les conditions ont changé. Et moi, je pense qu'il faut plus se préoccuper des questions de l'abattage des animaux et de la manière dont ils sont traités, plutôt que de la question de la chasse, qui, à mon avis... garde, quand elle est faite comme cela, une noblesse, et je dis un lien, je dirais même de gratitude à l'égard de nos ancêtres. Maintenant, sur la question de la forme animale et de la contemplation qui peut y avoir, le lieu où la forme animale, un des lieux où la forme animale apparaît le plus, en lien avec la forme humaine, et nous n'en avons pas parlé ici, parce que j'ai pas voulu... vous allez trop vite en besogne, mais peut-être qu'il faudra un jour faire quelque chose là-dessus. Le lieu où la forme animale apparaît dans sa splendeur, avec la splendeur de la forme humaine, c'est la corrida. Ça, c'est indéniable. Et, je veux dire, vraiment, ceux qui ont vu des corridas, ceux qui ont vu Toré, quelqu'un comme José Tomás, c'est absolument incroyable. Sauf que la grande différence, c'est que la corrida n'est pas sur un registre Walt Disney du rapport à l'animal. C'est un art et qui assume le tragique et une certaine violence, extrêmement disciplinée, extrêmement ritualisée. C'est Notre-Dame de l'Assomption qui est la patronne de la corrida. Hein, extrêmement ritualisée, avec en plus des passes qui correspondent à des choses religieuses, puisque la Véronique, par exemple, c'est quand on est avec, vous voyez,
le voile.
Le voile, et on prend l'animal de face. Et moi, qui a un amour profond hein, des bêtes, etc., quand j'ai vu, par exemple, José Tomás qui s'est pris... parce que le vrai problème de la corrida, c'est pas le mal qu'on fait aux bêtes, c'est la manière peut-être dont on s'expose quand on est un homme. Souvent, ça, on l'oublie, mais c'est quand même ça le vrai problème moral, à mon avis, peut-être. Mais quand José Tomás a eu une section de l'artère fémorale et qu'il a failli mourir, il a écrit un texte s'adressant au taureau qui lui avait fait ça. Et il faudrait lire ce texte un jour. Enfin, peut-être je le trouverai et puis je vous le lirai. Parce que vous voyez ce que c'est qu'un rapport d'admiration... De respect à une bête, vraiment, hein, c'est complètement l'opposé de ce que l'on croit quand on parle enfin souvent ce que les gens pensent à propos de la corrida. Donc il faut bien faire attention. Ce que je redoute, moi, c'est vraiment un rapport au monde qui est un rapport au monde de bisounours, où à la fin on oublie notre condition tragique, et donc la violence qui est toujours là va être dissimulée, va passer sous d'autres formes. Je vous rappelle que quand Himmler a été amené à voir une corrida, je pense que c'était à Barcelone, je ne suis pas sûr, il est sorti, après quelques minutes, il a trouvé ce spectacle absolument atroce, et il a dit que c'était complètement barbare. C'est pour ça qu'il a réussi à exterminer des Juifs sans quasiment faire verser le sang. Hein. Mais il y a quelque chose où il faut faire très attention à ne pas tomber dans des clichés. Et essayer de. Voilà, si j'ai insisté là-dessus, hein, sur la corrida, pour faire comprendre, mais ça peut aller. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à penser et à assumer le fait que notre condition est de toute façon violente ici-bas, et qu'il s'agit plutôt de ritualiser, de discipliner, de se responsabiliser face à la violence, plutôt que de faire comme si elle n'était pas, parce qu'elle revient sous d'autres formes extrêmes, enfin, terribles. Et ça, c'est très important. Oui.
Si je comprends bien votre argumentation en théologie, à l'origine, enfin, plutôt dans la situation post-lacère, vit dans a une condition tragique qui lui impose de...
C'est écrit, ça c'est écrit dans la Bible, alors on n'en a pas parlé, mais au moment avec Noé, il y a une alliance après le déluge. On pense que dans la Bible, on mange peut-être pas de viande et on tue peut-être pas de bêtes jusqu'au déluge. Et donc, ça voudrait dire que quand la terre se devient hyper violente au point que ça appelle le déluge, c'était que des végétariens. Ce qui pose un gros problème peut-être d'analyse pour certains, mais bon. Et que c'est après le déluge où il y a cette alliance qui passe par l'arc-en-ciel où Dieu dit à Noé, tu seras désormais la terreur des animaux. Enfin, il y a cette chose comme ça qui est vraiment étonnante, avec cette loi de ne pas prendre le sang, enfin de ne pas manger le sang. Donc effectivement, notre condition est une condition qui est violente. Parce que si on dit ça, on pourrait très bien dire, mais alors pourquoi le Christ, il est allé jusque sur la croix? Il aurait très bien pu nous sauver en dehors du sang versé, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des sacrifices animaux dans le temple? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des... Mais justement, il ne faut jamais oublier que notre condition, elle est sanglante. Et qu'il s'agit vraiment d'assumer cela. C'est tragique. J'ai pas dit que c'était... Attention, hein, j'ai pas dit que c'était... Ouais, c'est chouette. J'ai pas dit ça, hein. Mais j'ai dit que si on ne l'assume pas, on est dans une utopie qui devient extrêmement périlleuse. Voilà. Oui, juste fini, Julien, et puis... Ah bah, Saint François, il coupe le pied d'un cochon pour aller pour faire plaisir à un frère malade, pour lui donner du pied de cochon. Il faut faire attention, il ne faut pas fantasmer trop sur Saint François. Et la deuxième chose, c'est que parlons-en de post-rédemption. La première apparition de Pierre, qui va être l'enjeu du premier concile avec la première décision pontificale, c'est la vision de Pierre où Pierre voit des animaux, dont des animaux impurs, donc un cochon. Et la parole, c'est « Vas-y, tue-le et mange !» Donc, faut faire attention. Là, il ne faudrait pas tomber dans les fantasmes. Quant à la question de la panthère qui vit avec l'agneau, c'est pas nous, c'est la panthère. Alors, si vous arrivez à rendre une panthère végétarienne, vous êtes entré dans la chope eschatologique, effectivement. Mais c'est ça ce qui est écrit dans Isaïe, je le rappelle. Hein, parce que... Oui, allez. Mais c'est pas la même question que tu as posée tout à l'heure, tu vois. Si tu me disais, je suis végétarienne parce que les conditions d'abattage, je n'arrive pas à les connaître et je sais qu'elles sont la plupart du temps malsaines, alors là, je dirais, il n'y a pas de problème. Mais ta question, c'était, il est mauvais de tuer un animal en général, voilà. Et je dis, et d'ailleurs, j'ai pas dit que c'était pas mauvais, j'ai dit que c'était toujours quelque chose qui avait une dimension tragique, mais qui était juste à l'intérieur de notre condition réelle. Ah, on n'est pas, il n'y a pas de devoir, on n'est pas obligé de tuer un animal pour vivre.
En fait, on vit très bien aussi sans manger de la viande. En Afrique, je comprends que c'est difficile de trouver des protéines dans les végétaux et tout, mais en Europe, ben, c'est très facile, c'est le plus sain, beaucoup de médecins le recommandent.
Oui. Ça, je suis pas sûr. Je sais pas si quand vous brossez les dents le matin, quand vous vous brossez les dents le matin, je sais pas si vous avez remarqué que vous avez des canines. Eh bien, ça a été fait pour qu'on mange de la viande aussi. Et en fait, le corps a vraiment besoin de protéines. Et vous ne trouvez pas dans les végétaux le ersatz suffisant en principe.
L'an dernier, était venu Michel Bitbol, qui est plutôt bouddhiste et qui était végétarien, mais il a dû arrêter son régime purement végétarien parce qu'il avait des carences. Alors, on peut, certains organismes arrivent à supporter un régime pleinement végétarien, mais je veux dire, c'est pas un absolu. Hein. Voilà. Et nous sommes omnivores. Enfin, il n'y a pas, voilà, c'est notre intelligence qui nous fait aller vers le, qui peut nous faire aller vers un régime végétarien équilibré. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Mais tu vois la différence entre dire voilà, la question de tuer l'animal, c'est bien sûr que c'est dur de tuer un animal, mais moi je pense à toutes ces femmes dans les fermes qui n'avaient pas peur d'égorger le poulet, qui n'avaient pas peur de... Et c'était... Oui, mais c'est pas... On est en lien aussi avec ces personnes-là. La vraie question, c'est qu'elles le faisaient elles-mêmes. Mon vrai problème, c'est la grande distribution. Mon vrai problème, c'est les abattoirs industriels. Et moi je pense que s'il y a quelque chose qu'il faudrait détruire, c'est ça. En revanche, essayer de penser la chasse et une approche et une... Je pense à ce qu'avait fait Tolstoï avec ça. Il avait une vieille tante qui... Tolstoï était végétarien, il décidait d'être végétarien. Et une tante venait encore et il lui servait encore des légumes et tout. Elle n'en pouvait plus. Alors elle lui dit, non mais est-ce que je pourrais pas avoir de la viande? Et alors il lui a amené une poule vivante qu'il a mis dans son assiette. Il lui dit, maintenant allez-y ma tante, servez-vous. Bon, et alors elle était horrifiée parce qu'elle se disait, ben, tordre le cou de la poule, elle ne savait pas le faire, elle n'avait pas de verre, elle avait peur. Donc je trouve que la stratégie de Tolstoï est juste parce que la vraie question, c'est notre capacité à non seulement à vivre dans la compagnie des bêtes, et c'est ce que fait le chasseur, mais aussi être capable de les abattre si on mange cela. Je veux dire, de la manière la plus propre possible et la plus juste possible. Mais voilà, ça pour moi, c'est ça ce qui serait juste. Mais après, il y a un gros problème aujourd'hui qui est celui de la maltraitance dans un cadre de surconsommation de viande qui est la surconsommation de la viande industrielle, je précise. Parce qu'après, si c'est... Voilà, c'est pas... Enfin, voilà ce que je pense là-dessus. Oui.
Moi, j'ajouterais même que la chasse, souvent, c'est prendre conscience des souffrances d'un animal. Et que la chasse même apprend à voir la responsabilité qu'on a quand on achète de la viande en grande distribution. Et à chaque chasseur, ça arrive de mal tirer un animal, de le voir souffrir. Et ça fait prendre conscience justement des conditions atroces qui existent dans les.
Et puis l'amour des animaux, c'est je veux dire, faut pas oublier que les animaux aussi sont des prédateurs, hein, et que c'est dans la nature, c'est pas nous qui tuons d'abord des animaux, c'est d'abord des animaux qui tuent d'autres animaux, enfin c'est des bêtes qui tuent d'autres bêtes quand même. C'est ça la nature. Si vous regardez les poissons, c'est quand même un peu rude la vie des poissons. Moi j'avais vu ce documentaire La Planète Bleue, un documentaire de la BBC là-dessus, et j'en suis ressorti mais effaré, parce que j'avais trop vu Walt Disney, j'avais vu Le Monde de Nemo, où les requins ils finissent par être assez sympas, et puis là on voyait des choses, une violence dans la mer qui était stupéfiante. Et je suis sorti de mon imaginaire romantique, je dirais, de la nature. Et donc bien sûr qu'après, il y a le scandale de la surpêche, de la destruction des requins dont on coupe les ailerons et qu'on jette à l'eau comme ça. Enfin, vous voyez, il y a des choses monstrueuses qui sont faites par les hommes, ça c'est certain. Mais justement, c'est indigne du vrai chasseur ou du vrai pêcheur dans ce qu'on
tout
disait.
À voilà. Tout à fait, oui.
Bon, enfin, je vous laisse la parole.
Non, 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 non.
Et puis, on oublie aussi le côté que vous avez un peu, dont vous avez parlé un petit peu aussi, de la surpopulation, donc de régler la population animale,
oui,
pour qu'elle ne fasse pas de dégâts, justement, et que si on laissait vivre comme ça, bah, ça ne marcherait pas. Et si on tuait juste pour tuer, bah, à ce moment-là, ce serait aussi un gâchis, enfin, et ce serait même une faute morale de laisser cette viande pourrir.
Tout à fait.
Valérie va adopter des sangliers et des loups chez elle.
Oui.
Oui, moi, c'est toujours pour une réaction par rapport au choix végétarien. Voilà, c'est l'année de la vie d'Encore, vous pouvez essayer d'être gentil. Et c'est de le considérer plus comme une maladie occidentale, effectivement, qui est plutôt d'un choix en disant que on prend vraiment ce que l'on veut et on prend la nature comme un supermarché. Et du coup, de rejoindre, en revanche, peut-être plus qu'on a développé ces deux derniers jours avec l'idée de dire que l'homme est un petit peu un vagabond dans l'univers et n'est même plus capable de se considérer comme faisant partie de la création en tant que telle, puisqu'il a une espèce. Ça, c'est marrant, mais l'idée reflète le sentiment de compassion qui est le même un petit peu que l'on développait avec Jacques Ficot quand il s'agissait d'administrer un poison mortel. Et en disant que quand une personne souffre, on essaie d'imaginer sa souffrance sans avoir un détachement qui permet d'avoir une clairvoyance sur le réel et qui est assez délicate. Et le souci, c'est qu'à mon humble avis, je pense qu'à force de continuer dans des logiques qui sont celles des végétariens, on pousse à l'extrême avec le véganisme, on continue à aller dans une logique qui est vraiment post-humaniste en disant nous ne sommes même plus de la création. Puisqu'il y a vraiment deux mondes qui se créent, celui d'homme, celui d'animal, celui du végétal et du minéral. Et nous ne sommes plus
Mais il y a une chose que tu as dite qui est très juste, c'est la question du supermarché. Parce qu'en fait, on peut être végétarien et participer à une destruction complète. Parce que la question, c'est quels légumes aussi on mange. Comment est-ce qu'ils ont été... voilà, parce qu'en fait, on ne fait que repousser le problème. Et que ça ne suffit pas pour résoudre un problème. Parce qu'on peut... Il y a des cultures intensives, du maïs. Enfin, on sait qu'on a détruit des nappes phréatiques avec des nitrates, avec des choses comme ça. Donc, en fait, la vraie question, c'est une question, à mon avis, où il faut penser l'écologie, mais avec une vision beaucoup plus ample et sans rentrer dans des clichés voilà, où on croit que la solution absolue, c'est le végétarisme. Après, qu'on puisse avoir que soi-même, sans faire de militantisme, et qu'on puisse décider cela, ça, je le respecte absolument. Attention, à JGP, mais à nouveau, j'ai même plutôt de la sympathie pour ça, donc... Mais voilà, et puis ça c'est sûr aussi sur cette question de la fausse compassion, parce que après tout être chasseur c'est avoir une grande compassion pour le tigre. Non mais être proche de l'animal c'est aussi par exemple s'approcher de la condition de l'animal aussi qui mange de la viande. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont des animaux prédateurs. Je veux dire. Enfin, il y a une chaîne alimentaire, comme on l'a dit.
Absolument. Absolument. Oui. Oui. Il y a une question ici.
Je ne sais pas si vous pouvez dire un mot de l'art de la chasse à course. Vous avez parlé au début, je ne pouvais pas être là.
Non, on n'a pas parlé.
Cette pratique de la même manière, qui est un art qui s'est développé pendant des siècles.
Alors oui, donc c'est très ancien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une chasse en général à cheval où on communique par la musique, par les trompes et les chiens sont lâchés sur une piste et font débûcher un animal qui va sortir d'un bois et les chasseurs vont le suivre. Et ceux qui sont le plus près vont communiquer par les trompes de chasse ce que l'animal fait pour que les autres puissent revenir et le suivre. C'est une chasse où on prend... Il y a énormément de traditions, ils sont toujours bien habillés, etc. Ce sont des très bons cavaliers, etc. qui s'est pratiquée depuis le Moyen-Âge. Maintenant, beaucoup moins, parce qu'il n'y a plus les espaces. Hein. Et les chiens étaient dressés pour suivre un type d'animal, par exemple un loup ou bien un cerf. Ou un sanglier, donc il ne lâchait pas cette piste-là en quelque sorte. Et même si on lit des livres du marquis de Foudras, par exemple, Les Gentilshommes Chasseurs, ça c'est vraiment impressionnant. Il est même passé avec sa meute en Allemagne après avoir poursuivi un loup pendant 3 jours. Alors la faim, ça c'est toujours une chose qu'on peut discuter, c'est le fait que l'animal est cerné par les chiens et que le piqueur vient tuer l'animal au couteau en général ou à la lance. Hein. Et donc l'animal est laissé au chien, après ça s'appelle la curée. Donc ça c'est une façon de chasser, j'ai jamais pratiqué, je la respecte parce qu'il y a une très très vieille tradition et beaucoup de connaissances aussi par rapport à ça, des animaux en général. Oui.
On mange jamais en fait une viande de chasse à cour.
Non. Oui. L'animal est complètement stressé.
Ah oui, c'est ça, ça. Oui. Ah oui, c'est oui. ça. Donc il y a le stress là.
Il y a le stress. Mais bon, ils prennent très peu d'animaux par rapport à une chasse à la carabine, etc.
L'animal est couru jusqu'à
Épuisement, exactement.
Donc, c'est quand même assez.
Ah, c'est assez dur. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Oui.
Après, les chiens aussi, ils s'épuisent. Donc, il y a quand même un certain jeu, comme dans la corrida. C'est-à-dire que dans la corrida aussi, de toute façon, le taureau meurt.
Mais la différence, c'est quand même qu'un taureau bravo, quand il est enfin en face devant le torero, il est pas en stress, il est enfin en train de s'épanouir. Parce que c'est son truc, quoi. Il a vraiment, c'est un taureau qui a été. Vous savez que la corrida est un des arts les plus écologiques qui soit, puisque pour élever un taureau bravo, il faut l'élever dans des conditions de sauvage. Et c'est pour ça qu'en Espagne, il y a des endroits où la nature est encore préservée, parce que pour élever un taureau bravo, il faut 1 à 3 hectares de nature où on crée un biotope, où on préserve un biotope sauvage, où il est avec les femelles, oui. Ouais. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire il vit une vie assez idéale. Il faut pas donc une vie sauvage et préservée, et il faut pas que les humains s'approchent trop, parce que sinon il va s'accoutumer à leur présence. Donc quand il rentre dans la corrida, il voit un adversaire. Et lui, c'est dans son instinct, quoi, de chasser l'adversaire. Et donc, en fait, c'est pas le stress de la biche, parce que la biche, elle n'est pas faite pour ce combat-là. Mais là, il y a la rencontre, on pourrait dire, de deux virilités, quoi. C'est très étonnant. Hein. Oui.
Le fait de chasser un mâle, est-ce que c'est en quelque sorte un peu s'imposer à travers l'espèce comme un nouveau mâle de vient?
Je ne crois pas. Le fait de chasser un mâle, généralement, est pour garder une forme d'équilibre en général. Ce n'est pas pour le trophée. Il y a aussi un trophée en général. La femelle le porte rarement. Enfin, ça dépend. Chez les chamois, oui. Mais dans beaucoup d'espèces, il n'y a pas de trophée. C'est principalement par le fait que si on tue un vieux mâle, ça ne va rien faire sur la population de ce gibier-là. Par contre, si on tue une jeune femelle, vous pouvez, en faisant des calculs, voir combien de fois elle n'a pas pu reproduire et quel est l'effet qu'il y a sur l'espèce. Et donc, généralement, les chasseurs vont plutôt tuer un mâle. Oui.
Alors qu'aujourd'hui, on a surtout les problèmes de surpopulation dans la chasse.
Alors, c'est sûr, surtout les sangliers, n'est-ce pas?
Et même les chevreuils.
Oui, tout à fait. Alors, ça, il faut évidemment voir que le plan de chasse soit bien fait et s'y tenir aussi. Alors, le chevreuil, c'est relativement facile parce que c'est un gibier autochtone qui ne va pas bouger tellement. Un sanglier peut changer de territoire s'il est dérangé. Et là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut que chaque territoire de chasse ait un plan de chasse. Et si un sanglier passe de l'un à l'autre, ben, il rentre sans le vouloir dans le plan de chasse suivant. Mais il faut être sûr de tirer suffisamment de gibier pour garder cet équilibre. D'ailleurs, c'est très impressionnant de voir, dès qu'il y a surpopulation, la nature va régler automatiquement la chose. Par exemple, les chamois, ils attrapent donc s'il y a trop de chamois sur un territoire, ils vont attraper une maladie, ils deviennent aveugles, et généralement 80% des chamois meurent en chutant parce qu'ils ne voient plus rien, et alors les 20% restants vont recommencer à faire grandir. Donc il faut garder un équilibre toujours.